Bonjour à tous. Pour moi, un grand plaisir d'être dans cette assemblée de chercheurs et et notamment aussi de jeunes chercheurs. C'est si important, à mon sens, pour l'avenir de la recherche et l'analyse de cet objet si important, si crucial, j'ai envie de dire maintenant, pour la démocratie. Et donc, c'est une chose tout à fait importante que des jeunes aujourd'hui s'attellent à cette question qui est passionnante, mais aussi qui est porteuse d'enjeux symboliques extrêmement forts. Alors, par rapport au titre qui avait été proposé, je ne sais pas d'ailleurs s'il a été divulgué.
Il est là.
Bon, mais le titre n'est qu'une partie de ma présentation. Pour deux raisons. La première, c'est que Virginie, qui a participé comme auteur à ce gros travail, en faisant une excellente notice sur le Venezuela. Virginie m'a demandé d'ancrer aussi le propos dans le contexte de l'évolution des sciences sociales par rapport à l'objet migratoire. Donc, ce que je vais faire. Et d'autre part aussi, il m'a paru qu'au fond, c'était l'occasion de vous parler de la réalisation de ce travail, pas tellement la réalisation, ce que j'appellerais plutôt, pour paraphraser une émission célèbre de France Culture, la fabrique de ce dictionnaire. Donc, comment s'est constitué ce dictionnaire, pourquoi, et au fond, quels sont les enjeux que nous avons placés autour de cette réalisation mondialisée donc avec 150 auteurs et plus de 35 je crois nationalités représentées. Alors tout d'abord, comment s'est constitué, donc je vais venir assez rapidement sur cette question, d'autant plus que les intervenantes précédents ont largement déblayé le champ du transnationalisme. Je vais donc aller être assez rapide là-dessus et je ne viendrai pas sur beaucoup d'aspects auxquels j'adhère complètement à ce qui a été dit. Moi, je n'y trouve absolument rien à redire. Simplement pour dire comment la géographie a participé aussi à cette insertion dans le champ du transnational. Alors, les questions de migration, en fait, quand on regarde l'histoire de la géographie depuis, disons, la fin du 19e siècle, on s'aperçoit que c'est une préoccupation, la question des migrations, c'est une préoccupation des géographes depuis longtemps, et au moins depuis un siècle. Le géographe allemand Ravenstein se risque même à proposer en 86 un ouvrage qui s'appelle « Les lois de la migration », ce que personnellement je ne voudrais pas écrire aujourd'hui. Bon, dans les géographies universelles, c'est très intéressant les géographies universelles parce que ça nous donne une photographie de la perception de la géographie et du monde à l'époque où elles sont faites. Donc, à mon avis, c'est un outil vraiment d'intérêt pour les historiens aujourd'hui. D'ailleurs, on sait très bien que la géographie d'aujourd'hui, c'est l'histoire de demain. Donc, la géographie universelle apporte pas mal d'éléments. Déjà, dans ces grandes éditions, je pense en particulier à celle remarquable de Élisée Reclus, qui s'intéresse, c'est un humaniste, et il s'intéresse beaucoup à cette question, donc ça va revenir, par exemple, par rapport à l'esclavage, qui a été évoqué ce matin, la déshumanisation des migrations, par exemple, en ce qui concerne les migrations de militaires de Suisse. Voilà un aspect qui est absolument mal connu. C'est le fait que la Suisse, aujourd'hui un grand pays d'immigration, 25% à peu près de la population est étrangère, eh bien, a été jusqu'à la fin du 19e siècle un pays d'émigration. Un pays d'émigration. Et comme le disait Élisée Reclus, la principale matière, si on ose dire, de cette émigration, c'était la chair à canon, c'est-à-dire donc les soldats. Et la Suisse a été le principal réservoir de soldats pour toutes les armées d'Europe pendant plusieurs siècles, dans le cadre de ce qu'on appelait des capitulations, qui n'ont pas le sens de celui qu'on connaît, mais d'un accord entre les États demandeurs et les cantons, les fameux cantons suisses, et qui étaient offreurs en quelque sorte. Et donc, il y a beaucoup d'éléments dans ces collections. Alors, une autre collection aussi est intéressante, notamment celle, la collection de géographie universelle d'Armand Collin, des années 30, 1930. L'édition a été en fait étalée sur une dizaine d'années. Vous la trouverez dans toutes les BU. Il y a beaucoup de choses sur le sujet. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce qu'on est en pleine époque. On est au, j'allais dire, au paradis de la colonisation, là, avant les grandes remises en cause, la colonisation européenne en tout cas. Et donc, le sujet intéresse beaucoup les auteurs de ces différents volumes. Donc, il y a pas mal de choses à y chercher et à voir aussi quelle vision ces auteurs de l'époque se font des territoires colonisés et aussi des populations qui vivent là. Donc, c'est donc un thème qui fait partie de ceux qui intéressent les géographes depuis longtemps. Alors, plus précisément, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, on retiendra comme deux ouvrages, je dirais très classiques, hein, l'un de Max Sohr, qui est aussi un auteur de la géographie universelle, s'appelle « La migration des peuples », on peut le retrouver encore en BU, en 1955, qui nous apporte une sorte de vision écologique de la mobilité générale à la surface de la Terre. Voilà. Et donc, il fait une espèce de grand tableau et il met ça en rapport beaucoup avec les milieux, c'est assez classique dans la démarche de la géographie, hein, le rapport avec l'environnement, les milieux. On peut trouver vraiment encore des éléments intéressants pour comprendre là encore la mentalité de l'époque ou même obtenir des informations qu'on n'aurait pas autrement. Et puis, un peu plus tard, un géographe qui a eu une grosse influence sur les chercheurs et les étudiants des années 60-70, qui s'appelait Pierre Georges, et qui était d'influence marxiste. Et il avait fait notamment des ouvrages sur l'Union soviétique qu'on n'oserait pas trop rééditer aujourd'hui. Mais il avait fait un ouvrage intéressant sur l'émigration internationale qui a été publié en 1976. Et c'est sans doute un des premiers quand même à s'être intéressé au pays de départ en tant que tel. On en a parlé tout à l'heure. Donc il y a déjà là des analyses. Il avait pris, je me rappelle bien, le cas de la Yougoslavie. Qui est tout à fait intéressant parce qu'en plus, ça nous permet aujourd'hui de disposer d'éléments sur le sujet. Donc, cette tradition d'analyse qui était personnalisée par Pierre Georges a été ensuite reprise par des chercheurs que certains d'entre vous ont pu connaître dans le cadre de la géographie dite de la population. Géographie de la population, les migrations se logeaient dans cette partie de la géographie humaine. Et des personnes comme Michel Guillon, que nous avons connu et apprécié, c'est toujours une amie, Pierre-Yves Thumerel et Daniel Noin également, qui a écrit plusieurs ouvrages sur la géographie de la population, qui ont été des ouvrages de référence, sont, je dirais, représentatifs de cette approche classique de la migration. Bon. Alors, cette approche, personnellement, là je suis un peu obligé de me mettre en scène, cette approche, elle avait donc un intérêt, c'était tout d'abord s'intéresser à des populations qui, par leur catégorie sociale, n'intéressaient pas forcément la majorité des chercheurs, c'est-à-dire les travailleurs migrants notamment. Hein, et cette question se retrouve. Je vais la retrouver personnellement quand je vais m'engager dans la recherche et du fait de, un petit peu du hasard, le hasard joue toujours une part dans l'orientation de nos vies, eh bien je me suis donc retrouvé à ma demande comme coopérant en Tunisie dans les années 60-70 et c'est en faisant cette expérience très enrichissante personnellement, symboliquement bien sûr, et non pas matériellement, mais c'est en faisant cette expérience que j'ai découvert l'importance de la migration dans le sud tunisien. Et je vous demande, c'est un peu anecdotique, mais ce n'est pas tout à fait sans intérêt. Et c'est lié, en fait, aux événements de mai 68. Et ça va mettre en évidence quelque chose qui a été dit, mais sur lequel je vais revenir. En mai 68, donc, bien sûr, personnellement, comme à cette époque, on était tous porteurs de cette espérance que quelque chose allait enfin changer, eh bien, dans le sud tunisien, dans les oasis de Kébili, au sud du Grand Chott algérien, c'était au contraire la consternation générale, parce que cette oasis était absolument asphyxiée du fait de la grève générale qui touchait notamment les banques et surtout la poste. Les banques n'avaient pas encore l'importance qu'elles ont eue par la suite, mais la poste était tout à fait l'instrument par lequel transitaient les fonds que les migrants qui étaient en France envoyaient adressés à leur famille. Et donc, les gens étaient vraiment au bord de la panique parce que c'était leur seul, pour beaucoup, leur seul moyen de subsistance. Et ils étaient en plus scandalisés par le fait que les Français osaient se révolter contre De Gaulle. Ça les scandalisait autant. Mais donc je me suis rendu compte à quel point cette région était dépendante de transferts venant de l'autre partie de l'espace. Donc voilà, pour moi, ma prise de conscience de l'intérêt de la question est là, dans une circonstance au fond à la fois où la grande histoire et la petite histoire se rencontrent. Alors, à partir de là, et grâce à aussi pas mal de contacts avec les chercheurs de cette génération, et notamment Catherine en a fait partie dans le cadre de l'équipe de recherche sur la main-d'œuvre immigrée. C'était le titre de l'équipe, la première équipe de recherche qui a existé en France. Ça s'appelait ainsi. Elle est un peu connotée idéologiquement, bien entendu. C'était un haut foyer du marxisme. Je n'en faisais pas partie.
Pas nous deux, non.
Il y avait Tapinos, on ne pouvait pas dire non plus qu'il en faisait partie. On était un peu les électrons libres, disons, de cette école de pensée. Bien. Et donc, dans ce cadre, et en faisant mes enquêtes sur le terrain, au départ, je voulais faire quelque chose sur, justement, le point de vue inverse, soit des pays d'immigration. L'équipe travaillait surtout, évidemment, sur la France, etc. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, au contraire, avec l'expérience de vie que j'avais eue précédemment, c'était de montrer, en fait, pourquoi les gens partaient de Tunisie et pourquoi ils venaient en France. Et puis, au fur et à mesure que les années ont passé, c'était une thèse d'État, hein, un régime qui, heureusement, a disparu, parce que c'était à peu près 10 ans de travaux forcés. Et bien, au fur et à mesure, donc, je me suis aperçu que non, je n'allais pas faire la même chose que les autres recherches, par exemple, sur l'émigration portugaise, sur l'émigration yougoslave, etc. Et je me dis, en fait, je vais reproduire un peu une sorte de discours général. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est le fait que quand j'avais des entretiens avec les migrants, eh bien, ils parlaient de l'autre côté, donc de la France, parce qu'à cette époque, les Tunisiens n'émigraient qu'en France. Je ne parle pas de la Libye, qui est un cas différent. Et pour eux, c'était évident, et ça, j'insiste beaucoup sur ce point, qu'il s'agissait d'un même espace. D'un même espace. Et ce que, à l'époque, une tendance de la géographie avait valorisé, mais qui n'a pas eu beaucoup de suite, qu'on appelait l'espace vécu, dont les travaux théoriques ont été portés par Armand Frémont. Mais moi, qui m'avait bien intéressé, et donc je me suis rendu compte qu'en fait, je simplifie tout ça dans la démarche, qu'en fait, entre la Tunisie, plus exactement, les régions de départ en Tunisie, et les régions, les lieux où les Tunisiens venaient, eh bien, c'était en fait le même espace. Hein, c'est-à-dire pour eux, pour les migrants, oui, et c'était le même espace pour eux. Bien sûr, il y avait la Méditerranée à franchir, bien sûr, il y avait la frontière à passer, ce qui à l'époque ne posait pas les problèmes d'aujourd'hui, mais c'était le même espace. Et donc, peu à peu, je dirais, cette idée que, comment dire, on pouvait peut-être traiter cette question sous l'angle de cette unicité, en quelque sorte, de cet espace tel qu'il est vécu, pratiqué par les migrants. Et pour ce faire, en fait, j'ai été aidé sur le plan théorique par les travaux d'un géographe suédois qui s'appelle Aberstrand. Ils ont, on va dire, l'essentiel a été vulgarisé en France, pas vulgarisé scientifiquement, a été mis à la disposition de la communauté par un démographe qui était spécialisé dans les migrations internes, s'appelle Daniel Courgeot, dans une publication de l'INED et sur les champs migratoires. Et cette idée-là a fait son chemin chez moi, et je me dis, bon, dans la démonstration de Courgeot, il avait fait une application sur les migrations internes en France. Et moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de faire une application sur l'ensemble du champ transnational, en fin de compte, entre les deux côtés. Et donc, la suite, je dirais, la fin de la thèse était beaucoup plus facile que la fin, parce que j'avais enfin trouvé la ligne directrice, la dynamique, en quelque sorte, qui allait m'apporter vers une construction, une démonstration. Et pour ce faire, je vais insister un petit peu là-dessus sur le problème des sources. Et on va retrouver la question classique chez les historiens qui veut qu'un travail puisse être comment dire, appliqué, appuyé sur des bases statistiques solides et si possible originales. Alors, à la disposition des chercheurs à cette époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, il n'y avait quoi ? Il n'y avait que les recensements de population. La Tunisie commençait à peine à recenser sa population. Et en France, il y avait bien sûr une catégorie pour les Tunisiens, mais bon, elle n'apparaissait pas vraiment de manière très, très spécifique. Parfois, d'ailleurs, elle était englobée avec les Maghrébins. Donc, ce n'était pas évident. Et donc, je me suis mis à la recherche de sources originales. Je vais en parler un peu parce que peut-être c'est un petit peu pas très courant. J'ai réussi à rentrer en quelque sorte grâce à l'appui du ministre tunisien des Affaires étrangères, dont j'ai fait le siège pendant 15 jours. Mais je suis breton et obstiné, donc j'ai obtenu gain de cause à pouvoir travailler dans les fichiers des consulats. Et donc j'ai eu à ma disposition donc toutes les fiches consulaires des consulats de Marseille et de Lyon, c'était pas de Paris, c'est trois grandes conscriptions de l'époque. Et n'ayant pas pu faire celle de Paris, eh bien, je suis allé au culot au ministère de l'Intérieur et demandé au cabinet du ministre si je pouvais travailler dans les titres de séjour des Tunisiens. Alors, il m'a été posé une seule question, c'est le moment de livrer les dessous de l'histoire. Eh bien, on m'a dit, est-ce que vous êtes gauchiste? Alors, j'ai répondu, non, monsieur. Et pour prouver que je n'étais pas, j'ai même dit que, comme j'ai eu la chance de rentrer assez jeune à la fac, j'ai même été pris en otage, ce qui était vrai, par des gauchistes à Poitiers. Alors, pour moi, ça a été le passeport intégral. Et à partir de là, tous les fichiers m'ont été ouverts, sauf évidemment les fichiers ultra confidentiels. Mais moyennant quoi ? En dépouillant tous ces fichiers consulaires et de la préfecture de police de Paris, eh bien, au total, j'ai pu, sur une population à l'époque estimée à 100 000 personnes, recueillir par un sondage au 10e, donc une fiche sur 10 systématiquement, parce que tout était classé par ordre alphabétique, 10 000 fiches. Sur lesquels donc j'ai relevé le maximum de variables, et en particulier les lieux d'origine en Tunisie et les lieux de résidence en France. Bon, parfois ça avait moins d'intérêt, j'ai donc moins de valeur sur le plan statistique, les activités professionnelles, etc. Et ensuite donc j'étais amené à faire un traitement, un des premiers traitements numériques de toute cette information colossale, qui m'a permis de faire, je pense vraiment, une analyse à l'époque, c'est daté bien entendu, une analyse du champ migratoire tel que le pratiquaient les Tunisiens, donc dans ces années 60-70. Et que j'ai complété par une autre source qui garde une valeur pour aujourd'hui, à mon sens, c'est la source postale. L'administration postale tunisienne était une administration très sérieuse, très sûre, quoi. Et je suis allé demander, là encore, au niveau ministériel, si je pouvais utiliser les mandats que les migrants renvoyaient dans leur pays. À cette époque, ils n'utilisaient pas encore la banque. Et donc, en faisant. L'intérêt de ces mandats était celui-ci. Et je pense que ça reste valable aujourd'hui. Il y avait le lieu d'émission du mandat en France, hein, même précisément par bureau de poste. Hein, vous envoyez un mandat, bon, forcément, c'est localisé. Hein, et le lieu du mandat qui était remis, où il était remis en Tunisie. Et donc, j'avais encore une variable qui permettait de connecter, c'était ça l'idée, connecter les espaces de départ et les espaces d'arrivée. Et avec ça, eh bien, avec tous ces éléments, avec le traitement graphique, et là on revient sur la question de l'Atlas, j'ai pu faire des cartes, hein, et même établir, je dirais, des probabilités d'importance de population en fonction des lieux d'origine. Bon, je suis un peu long sur le sujet, mais voilà, je pense que c'est important. Donc de ce fait, à partir de là, après j'ai pu théoriser un peu sur la question. Mais j'avoue, je dois dire, je ne connaissais pas à l'époque du tout les travaux américains sur la question. Et lorsque j'ai été amené à publier ma thèse, non, ils n'étaient pas faits, ils n'existaient pas. Mais en fait, je les ai découverts après coup, de toute façon. Et quand j'étais amené donc à donner un titre à ma thèse, vraiment, je me suis vraiment creusé la cervelle pour savoir comment j'allais intituler cette thèse. Et en fin de compte, c'est devenu donc l'espace des travailleurs tunisiens en France, c'est-à-dire travailleurs, c'est pas des Tunisiens, c'était des travailleurs tunisiens, donc il y avait bien l'idée là du salariat, hein, du travail, et peut-être ça va rebondir sur certains aspects de ce que vient de dire vous-même, Sophie, non ?
Soigny,
eh bien, donc le sous-titre est assez évocateur, il me fait un peu, comment dire, rire aujourd'hui, c'est structure et fonctionnement d'un champ migratoire international. Non pas transnational, mais j'ai cherché ce terme transnational, je vais voir dans le dictionnaire, il n'existait pas. Enfin, vous voyez, il n'existait pas, et donc j'ai mis international, faute de mieux. Mais l'idée était là. Donc, à partir de là, ensuite, eh bien, je dirais cette... à partir de la construction de cette idée d'espace migratoire, hein, donc c'était en fait venir à l'idée suivante, que la migration, on peut l'étudier en tant que mouvement, en tant que déplacement de personnes. Mais ce qui est intéressant, enfin, peut-être j'en parle d'autant plus que, évidemment, je suis géographe, mais c'est de voir à partir du moment où cet espace est cartographiable, hein, donc c'est localisé, etc., il prend un sens différent. L'espace migratoire n'est pas, la migration ne fonctionne pas selon des lois de hasard. Elle fonctionne en fonction d'un certain nombre de logiques. Hein. Soit, comme l'a très bien dit Swana, soit des logiques économiques qui sont fortes, soit d'autres logiques qui sont notamment les logiques de réseau. Hein. Et donc, cet ensemble d'éléments m'a permis donc de développer cette idée de concept, de ce concept en quelque sorte, de champ migratoire, qui après, bon, par l'intermédiaire de Migrataire, évidemment, a été repris par d'autres. Et oui, je veux dire ici, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'évolution de la sociologie? Je pense, et cela est assez fréquent, à mon sens, dans l'ensemble du domaine scientifique, sciences de la terre, sciences de la vie ou sciences de l'homme. Eh bien, c'est que je pense qu'à certains moments, pour des raisons que je ne peux pas, moi, expliquer, au fond, il y a des idées qui convergent de manière un peu souterraine, ouais, et qui arrivent en quelque sorte au même moment. Ouais. Et voilà, parce que c'est peut-être un fonctionnement inconscient de l'esprit humain, vous voyez, en termes de recherche, mais je pense que cela existe. C'est ce qui s'est passé, je pense, avec les travaux faits par les Américains ou d'autres, voyez, les Anglo-Saxons, sur cette question. Il y a eu une sorte de rencontre, en quelque sorte. Même chose aussi pour les questions de circulation migratoire. Je sais que, personnellement, j'ai donné le premier mémoire de maîtrise à faire en 1985 à deux étudiantes. Je leur ai dit, tiens, il y a un beau sujet à faire sur la circulation migratoire entre le Portugal et la France. Effectivement, c'est un beau sujet. C'est un beau sujet. Donc ça donne lieu au premier mémoire. Et après, à l'intérieur de Migrateur, dans nos programmes de recherche, on a toujours inscrit ce thème-là. Oui. Et lorsque le thème a été proposé dans un appel d'offres du ministère de la DPM sur la circulation migratoire, bon, on a été retenu. Parce qu'on avait une petite longueur d'avance sur le sujet. Oui. Mais là encore, c'est la même chose. Oui. Les travaux d'Alain Tarius sont arrivés presque au même moment. D'ailleurs, je me rappelle, puisque on l'a publié dans la revue européenne des migrations internationales qu'on a fondée, eh bien, il y a eu une grosse discussion de savoir est-ce que c'est migration, est-ce que c'est pas migration, est-ce qu'on le retient, est-ce qu'on le retient pas. Et en fin de compte, Alain écrit très bien, c'est très vivant, et moi, le comité de rédaction a dit ah oui, on va le publier. On va le publier, c'est sur les couloirs migratoires vers Tunis. Allez. Voilà, en fait, comment fonctionne concrètement la recherche, comment fonctionnait la recherche. Bon, alors, j'en termine sur cette question de concept, d'évolution, etc. J'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire. La deuxième chose concerne le dictionnaire. Alors, le dictionnaire qui circule là, c'est autre chose. Virginie a dit qu'effectivement, il y a quelques années, j'ai fait un manuel, en fait, c'était pas autre chose, un manuel pour les géographes chez Colin, qui s'appelle « La planète migratoire dans la mondialisation », donc où je reviens sur l'ensemble de ces questions de mondialisation, bon, largement débattu ici, j'y reviens pas. Mais, d'une certaine manière, j'avais quand même un peu l'idée que, comme cela a été dit aussi, ben, l'État, en tant qu'acteur important de la migration, l'État n'était pas mort, hein, l'État-nation n'était pas mort du tout. Oui. Et tu as bien fait, Nancy, de rappeler que c'est seulement à partir du 11 septembre que ce ressort-là a fonctionné. Je me suis dit, on ne peut pas le négliger, en fin de compte. Hein. Je pense que, au fond, c'est une manière de. C'est un peu, presque pour moi, le contrepoint du bouquin précédent. Hein. Je regrette ni le bouquin précédent, ni celui-là, mais au fond, c'était plutôt comme. Oui, il faut quand même ne pas abuser, quoi, oui, et exagérer. Et alors, ce dictionnaire, il correspond à deux objectifs. L'un est scientifique et l'autre, il est, je dirais, citoyen. Tout d'abord, sur le plan scientifique, en tant que géographe, j'ai toujours regretté, y compris à l'intérieur de mon propre laboratoire à l'époque, je ne suis pas propriétaire, j'ai toujours regretté l'absence d'historien. Parce que, peut-être par ma formation d'historien, enfin de géographe, mais pour faire l'agrégation de géographie ou d'histoire, il faut faire beaucoup de l'autre discipline. Et donc, de toute façon, j'ai toujours aimé l'histoire, mais surtout, j'étais assez convaincu qu'un certain nombre de choses d'aujourd'hui prennent en fait en partie racine dans une histoire peut-être ancienne, peut-être. C'était une hypothèse. Donc c'est une hypothèse qu'au fond j'ai voulu un peu valider. Et plus le temps a passé, et plus je me suis rendu compte dans les publications que je faisais ou les conférences que la part de l'histoire était importante. Et donc, l'idée, c'était de pousser l'idée, c'était encore mon projet, c'était en fin de compte le projet de pousser l'idée encore un peu plus loin et d'explorer systématiquement, pour tous les pays du monde, leur histoire migratoire, la coupure et celle-ci, c'est les grandes découvertes. Hein. Puis c'est quand même les grandes découvertes, c'est pas parce que ce sont les grandes découvertes faites par des Européens, c'est quand même une des phases importantes de la mondialisation. Et donc, un autre rapport d'être au monde qui s'établit là. Et donc, c'est pourquoi donc, j'ai proposé à un nombre d'auteurs de participer à ce grand projet. Et je le dis tout de suite, il y a également un objectif citoyen. Cette question de la migration aujourd'hui, à mon sens, c'est un enjeu important pour la démocratie. Je crois que c'est pas la peine de vous faire un discours sur le sujet. Et en faisant les toutes sortes de conférences, notamment à des gens de mon âge, oui, eh bien, je me suis rendu compte que d'une chose qui, moi, évidemment, me scandalisait un peu, c'est qu'au fond, pour un ensemble de personnes, la migration est illégitime. Hein? Je dis bien, vue d'ici, elle est illégitime. Et donc, c'est ce qui explique, vous allez comprendre, le contenu de cet ouvrage. Eh bien, j'ai demandé à tous les auteurs de cet ouvrage de se conformer à cette demande pressante, obligatoire, qui était de construire l'image, de fabriquer l'histoire migratoire des différents pays sous un double registre, immigration et migration. Ce qui, dans un certain, certaine manière, pourrait apparaître comme la négation totale de ce que j'avais pu faire pendant 20 ans ou 30 ans de ma vie de chercheur. Mais en même temps, il est important de montrer qu'un pays n'est pas identifiable uniquement à travers une seule fonction, mais qu'il y a une autre fonction que souvent une grande partie de la population ignore. Et donc, voilà. Donc, le but, au fond, c'est la pédagogie un petit peu d'expliquer que l'histoire migratoire, c'est complexe. Et que toutes les populations du monde ont migré un jour ou l'autre de leur histoire. Toutes. Alors, il y avait aussi cette idée de mettre à disposition des chercheurs, notamment des jeunes, un matériau qui leur fasse faire une économie importante en termes de temps de recherche pour comprendre le contexte dans lequel leur propre recherche allait s'inscrire. Et donc, on a fait ce travail, ça a pris 3 ou 4 ans, et j'ai rencontré beaucoup d'enthousiasme de la part des participants. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'il y a des pays qui étaient pratiquement inconnus. Hein, certains pays de l'Afrique occidentale ou certains pays d'Asie du Sud-Est n'avaient pas vraiment une histoire migratoire constituée. C'est pour ça que je parle de fabrique de l'histoire. Ouais, fabrique de l'histoire. Et cela, donc, nous l'avons fait dans le même esprit que Migrinthe, c'est-à-dire un esprit pluridisciplinaire. Donc, si les géographes, ils sont en majorité, il y a évidemment un rapport avec l'espace, mais c'est aussi, il y a aussi beaucoup d'historiens, des anthropologues, des sociologues. Et au fond, je crois qu'il y a évidemment aussi l'avantage d'avoir une diversité de points de vue, hein, puisque forcément l'approche de l'anthropologue ne sera pas exactement la même que celle du géographe. Donc voilà l'idée de ce dictionnaire qui, je dois le dire, a été publié malgré de grandes difficultés avec l'éditeur, ce qui explique pourquoi il n'y a pas de carte, de vraie carte géographique de cet ouvrage, parce que l'éditeur ne voulait pas d'un ouvrage qui dépasse 600 pages. Or, il en fait 808. Donc ça a été la bagarre, je dois dire, avec l'éditeur. Et en fin de compte, j'ai quand même réussi à faire... passer ce dictionnaire, mais il a fallu faire des concessions, et notamment sur les cartes, et des concessions sur les tout petits états, les micro-états. Voilà. Alors, juste pour terminer, je suis en train d'avoir été un peu long, juste pour terminer, le thème qui est affiché là, révolution et migration. Parmi les...
C'est pas
68.
Alors, pour terminer donc, eh bien, ça c'est un des résultats de ce travail. En faisant ce travail, je me suis aperçu à quel point le thème de la révolution était un thème important, un thème politique, et, mais pas simplement dans le domaine du politique. Donc il y a une question sur le champ. Et l'idée c'est, bon, on se doute bien que les termes de révolution, c'est pas la peine de les citer, bon, disons la révolution bolchevique par exemple, etc., les termes ont déterminé des flux de réfugiés, de migrants, d'opposants. Plusieurs millions de personnes ont été déplacées. Catherine parlait des guerres, mais les guerres et les révolutions, d'ailleurs, souvent sont liées, guerres civiles, etc. Bon. Et je pense que c'est tout à fait important de s'intéresser à cette question. Et donc, cet aspect-là mérite d'être étudié. C'est pour ça que je suis très content d'en parler aujourd'hui, ici même, notamment avec des historiens, parce que ça relève beaucoup, évidemment, de l'histoire des différents pays concernés. Et cependant, ce thème va être discuté au cours du colloque des 30 ans de Migrinthe, Et j'ai souhaité l'élargir à l'aspect suivant, qui est le fait qu'il n'y a pas que les révolutions politiques qui ont déplacé des populations, qui déplacent encore des populations. Il y a également d'autres types de révolutions qui en sont. Hein. Si on prend le sens premier de révolution, c'est le sens astronomique, hein, c'est-à-dire c'est le retour sur soi, hein, la Terre fait sa révolution, voilà, en un jour. Hein. C'est le retour au point de départ. Hein. Or, au contraire, le terme tel que nous l'entendons dans le langage, c'est au contraire le bouleversement et à l'ancien régime, constitue un ordre nouveau, si j'ose dire. Ouais. Eh bien, je pense que si on prend cette idée-là, on voit que dans le domaine de l'économique, dans le domaine du social, et en particulier ici, je pense à la question, des inégalités sociales, hein, ou des réformes. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Dans le domaine du transport, évidemment, ça tombe sous le sens. Mais également dans le domaine de la communication, comme aujourd'hui, eh bien, il y a vraiment une réflexion à faire chez les chercheurs sur toutes ces révolutions que j'oserais qualifier quand même de structurelles, d'une certaine manière, au sens marxiste du terme, et l'émigration. Il est clair qu'aujourd'hui, par exemple, est-ce que l'émigration vers l'Europe aurait pris une telle ampleur sans les moyens actuels de communication? Je ne suis pas sûr. Donc, il y a un terrain de recherche important. Et donc, j'invite notamment les jeunes chercheurs à s'intéresser à toutes ces questions. Merci de votre attention.